Qu'est-ce qu'on va prendre comme pizza, ma chérie?
Puis-je me permettre de vous préparer des spaghetti all'italiana per tutti?
Una bella idea.
Margherita?
Oui.
Oggi vi proponiamo canederli allo speck, gnocchi di polenta con burro di malga.
Margherita?
Tres margherita e un picadillo.
Parce que les pâtes chez nous, ça se mange al dente.
Certo.
C'est de l'italien.
Ça veut dire bien sûr.
Je sais très bien ce que ça veut dire. Simplement, si je peux me permettre, vous avez une toute petite pointe d'accent. Vous êtes de quelle région?
Roma.
Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu, c'est bien.
Buon appetito.
Grazie.
Prego.
Prego tu.
Buongiorno a tutti, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Et si pour clore ce millésime 2020 un peu déprimant, voire franchement pourri, on se remontait le moral avec une grosse bouchée moelleuse de panettone, une gorgée pétillante de prosecco, un plat de spaghetti à la sicilienne, ou de joyeuses scènes de table picorées dans le cinéma italien. À l'approche de Noël, on vous sert sur un plateau une belle tranche de Dolce Vita, parce que l'Italie nous botte dans cette émission depuis de nombreuses années, mais aussi parce que nous fêtons ensemble la parution d'On va déguster l'Italie, le troisième opus dans la collection des livres On va déguster, une bible de près de 500 pages, coéditée par Marabout et France Inter. Notre ambition fut de dresser un panorama complet, joyeux, savoureux de la cucina italiana avec des centaines de recettes, des portraits, des spécialités, des anecdotes culturelles et j'en passe. Dans cette grande aventure éditoriale, quelques 159 contributeurs, dont 96 experts italiens, ont mis leur grain de sel et parmi eux, deux compagnons de route qui m'ont aidé à piloter ce gros poids lourd de connaissances, Alessandra Pierini et Stéphane Sollier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alessandra Pierini, nos auditeurs vous connaissent bien. On a animé ensemble hein, quand même pas moins d'une douzaine d'émissions sur les cuisines régionales d'Italie depuis pas mal d'années. Vous êtes génoise de naissance, marseillaise de cœur, parisienne d'adoption. Vous êtes à la tête de l'épicerie rap Paris 9e et vous avez fait un travail exceptionnel d'inventaire de tous les produits italiens dont on va déguster l'Italie. Vous nous avez apporté d'ailleurs des spécialités bien de saison.
Absolument. Là, on est en train de avoir sous les yeux le panettone. Et pas seulement, mais aussi le pandoro, plein de gâteaux, des desserts italiens.
Des nougats,
italiens,
des
nougats.
Salades amères. Des salades, des bonnes salades d'hiver.
Des bonnes salades d'hiver, des citrons, des agrumes, l'agrume phare de l'Italie.
On ne vous fait pas de dessin, chers auditeurs. Le studio 521 de la Maison de la Radio est littéralement couvert de spécialités italiennes de fête de préférence puisque nous sommes à l'approche de Noël. Stéphane Sollier, bonjour.
Bonjour.
Professeur agrégé de lettres classiques, chercheur en culture culinaire. Vous êtes italophone, italophile, italophage depuis de très nombreuses années. Vous avez supervisé les pages culture dont va déguster l'Italie et il y en a de très nombreuses. Vous allez nous inviter dans un instant à la table de quelques artistes gastronomes à l'échelle par la botte.
Oui, on peut penser à Dumas, on peut penser à Rossini, Verdi. Donc on va passer de la littérature à la musique, on frôlera un petit peu le cinéma et on reviendra aussi à des auteurs gastronomes, gastrophages, tout ce que l'on veut.
Nous accueillons également un chef sicilien de Paris qui a participé à notre encyclopédie, c'est Fabrizio Ferrara. Ciao.
Ciao, buongiorno.
Sicilien, vous avez piloté beaucoup de recettes siciliennes dans le livre.
Oui, trois.
Caponata.
La caponata, la pasta alla norma, grand classique de la cuisine sicilienne et une spécialité sicilienne que voilà, aujourd'hui on fait ici sur le plateau directement des spaghettis alle sarde.
En
donc
direct.
À pasta qui sarde.
Voilà, les spaghettis aux sardines qui est un plat du 24 décembre en
voilà,
Sicile dans votre famille.
C'est un des plats qu'on fait le 24 décembre parce que c'est un plat sans viande. Donc
génial.
Le 24 soir on mange sans viande donc traditionnellement et donc c'est un plat goûteux et voilà.
Parfait, et vous êtes accessoirement au fourneau de l'Osteria Ferrara à Paris.
Exactement.
L'un des plus beaux établissements pour déguster la cucina italiana dans la capitale avec nous enfin, une grande voix de France Inter, notre monsieur cinéma, c'est Laurent Delmas, bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Un grand ami de l'émission, gastronome, vous vous êtes penché dans On va déguster l'Italie sur les relations très intimes entre cucina et cinéma.
Oui, mais quand on aime le cinéma, je crois qu'on aime le cinéma italien aussi et presque d'abord. Alors on ira du côté de chez Scola, ça c'est pour l'intérieur de la botte, mais c'est aussi une cuisine qui s'exporte et notamment aux États-Unis avec bien évidemment la cuisine des mafieux.
Très bien, c'est ça. Donc ça, c'est un peu moins joyeux, on verra. Et puis, comme on fait la fête aujourd'hui, il y a trois livres. On va déguster l'Italie dédicacé à gagner en direct. Trois occasions pour vous, amis auditeurs, de remporter ce livre derrière votre poste, à condition de répondre aux questions que nous allons vous poser tout au long de cette émission. Tenez-vous prêts, il va falloir être rapide. Pour nous adresser la bonne réponse sur notre mail, on va déguster @radiofrance.com.
France Inter.
on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de célébrer les saveurs italiennes, je voudrais saluer la mémoire de celui qui a marqué la gastronomie française contemporaine, de son esprit de conquête, de ses grands plats signatures, de son intelligence de cuisine, Marc Menaud, dont on a appris la mort mercredi dernier à l'âge de 77 ans, avec la disparition de celui qui avait obtenu 3 étoiles, la consécration suprême au guide Michelin, au fourneau de son restaurant L'Espérance, à Saint-Père, alors on dit plus Saint-Père en Vézelay ou Saint-Père sous Vézelay, mais on dit Saint-Père tout court, et c'est dans le département de l'Yonne. Eh bien, avec cette disparition, c'est une page de la gastronomie tricolore qui se tourne, la page des huîtres en gelée d'eau de mer et des cromesquis de foie gras, celle des pommes de terre au caviar et du filet de veau au caramel amer. Nous avions reçu le grand Marc Menaud dans On va déguster le 25 décembre 2011, c'était il y a 9 ans, pour un repas de fête à la maison de la radio. Je lui avais demandé à l'époque quel était son meilleur souvenir de Noël.
Le souvenir de Noël, je ne les ai toujours connus qu'en travaillant. Donc je n'ai pas le souvenir de le faire des repas de famille. Malgré que ça me soit arrivé une fois, je me suis profondément ennuyé. J'ai toujours été habitué à faire Noël aux autres. Et un de mes meilleurs souvenirs, c'est celui avec Serge Gainsbourg. Pour nous remercier, il nous a offert un feu d'artifice et un concert le soir, quelques mois avant qu'il parte plus loin.
Son dernier Noël et son dernier jour de l'an, c'était
son dernier Noël et jour de l'an à l'Espérance. Et c'est certainement un des plus beaux moments où on était médusés heureux.
Serge Gainsbourg avait son rond de serviette au restaurant L'Espérance, tout comme François Mitterrand, mais également le compositeur Rostropovitch ou le journaliste Laurent Delmas. Ou le journaliste Laurent Delmas.
Oui, je me souviens de l'huître, effectivement, dont vous parliez, avec cette petite touche de cresson très importante. Il faut dire aussi que Menaud avait réinjecté du vignoble dans sa région de Saint-Père-sous-Vézelay, avec notamment la réintroduction avec Jean Montanet, le vigneron du melon, qui est le muscadet, mais c'était à l'origine le melon. Il était bourguignon, ce melon, et c'est à lui qu'on doit. Et puis surtout, dans ma partie, en tous les cas, il a été conseiller culinaire de Mademoiselle Coppola sur le tournage de Marie-Antoinette, et du coup, il a fait des pâtisseries, les desserts, notamment les gâteaux du film, et il en a tiré une recette qu'il a gardée à sa carte, les fraises Marie-Antoinette, meringue italienne, hibiscus, orange, mousse aérienne, un régal.
Marc Menaud, consultant culinaire sur le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, c'était en 2006.
Il me semble bien, oui. Ouais. Les macarons, c'est pas lui, mais le reste,
d'accord,
c'était lui.
Et le reste, c'était lui. Marc Menaud, dans ses derniers jours à l'hôpital, Marc Menaud a déclaré qu'il rêvait, en guise de dernière volonté, d'un saucisson pistaché. On est sûr que là-haut, à la table des grands chefs français, Monsieur Paul aura la bonne idée de lui en servir un bien chaud.
Et il avait pour devise « Aide-toi, le ciel ne t'aidera guère ».
Ah, bon, bah écoutez, en
pas
tout
mal,
cas, oui,
hein,
absolument.
Ouais, c'est assez réaliste.
En tout cas, au revoir à Marc Menaud et nos condoléances à toute sa famille.
Ouais. On va déguster
l'émission gastronomique de France Inter.
François-Régis Gaudry.
Allez, on va déguster l'Italie avec une première question pour gagner un exemplaire dédicacé de notre livre, coédité par Marabout et France Inter. Dans un instant, Alessandra Pierini vous pose une question. Et attention, seules les bonnes réponses adressées sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com avec votre nom et votre adresse postale. Sinon, pas moyen de vous envoyer le livre. Eh bien, seules ces réponses-là seront acceptées et nous désignons pour les 3 livres à gagner à chaque fois l'auditeur le plus rapide. Question Alessandra Pierini.
Alors, de quelle ville du nord de l'Italie est originaire le panettone?
Très bien, Alessandra nous donne la réponse dans un instant et va nous faire déguster les meilleurs panettones du monde. Laurent Thomas réalise l'émission avec Antoine Cruchon, Margot Page pour la préparation et l'animation de notre site internet, Djoubaka pour la programmation musicale. Et pour nous plonger dans l'ambiance d'un Noël à l'italienne, Alessandra Pierini a choisi, ou plutôt a exigé,
c'est la colonne sonore du film culte de Noël de 2016 du réalisateur Massimo Boldi. Il est chanté par la romaine Anna Tatangelo et le titre de la chanson est Natale Italiano.
Buon appetito sur France Inter.
Senti com'è calda la città. Senti come canta la follia. Vedi questo sole su di me, mi riporta l'allegria che ho perduto con te. Libera di vivere così,
vado ancora verso sud. Scopro come incanta questo mare, come posso navigare la mia voglia di te. Un Natale italiano dove vive l'amore, sotto un cielo di stelle mi scaldo la pelle alla luce del sole. Un Natale italiano per chi ama l'amore, per chi vive sognando l'estate d'inverno alla luce del sole. Balleremo ancora tra di noi, finché resta in piedi l'allegria. Guarda come cambia questo viso, quando vedo il tuo sorriso, quando canto per te.
Et voici la bûche italienne, le panettone, une brioche de 5 kilos, pas moins, acclamée comme les plats précédents quand il fait son entrée à table.
Pour moi, le panettone représente les fêtes de Noël, l'hiver, les vacances, les moments où nous sommes en famille.
Que morbide.
Le panettone, cette tradition de Noël en Italie. Alors, les Italiens n'aiment pas trop que... On le définit ce panettone comme une brioche.
Non, pas vraiment.
C'est trop français pour vous, la brioche.
C'est un peu français, mais non, pas seulement. C'est que le panettone, c'est un véritable gâteau. C'est notre gâteau du repas de Noël. Toutes les familles italiennes en mangent. On l'offre à nos voisins, à notre médecin, à nos employés. On l'amène au repas de famille chez la mame et chez la nonne. Et donc, il trône vraiment sur le buffet, à côté de la grande table de Noël. Et il y en a plusieurs sortes, plusieurs variétés, de plusieurs pâtissiers différents. Et on fait la compétition à qui en mange le plus, bien sûr. On
C'est
en
ça.
Mange toujours à la fin du repas. On laisse toujours une place pour le panettone.
Alors, Alessandra Pierini, vous êtes spécialiste, on l'a bien compris, de ce panettone. Vous avez écrit un livre sur le sujet aux éditions de l'Épure, qui est
Absolument.
Paru l'an dernier. Oui. Vous proposez dans votre boutique parisienne peut-être bien le plus grand choix de France de panettone. Vous avez supervisé aussi les pages panettone et elles sont copieuses oui. et denses dans On va déguster l'Italie, notre encyclopédie. Alors, vous dites que le panettone est une tradition répandue dans toute la botte et pourtant au départ, le panettone a bien une région, voire même une ville d'origine, ce qui nous amène tout naturellement à la question qui permet de gagner notre livre dédicacé. Quelle est donc la ville ? On avait une idée autour de ce plateau. Bah, je ne vais pas poser la question à Stéphane Solier,
non,
mais...
Pas mes copains d'aventure.
Fabrizio, mais... c'est pas sicilien, hein, le panettone.
C'est pas sicilien, même si...
Même si. Il y en a des très bons en Sicile.
Il y a des très bons pâtissiers siciliens qui se sont mis à le faire, comme Napolitain aussi. Et voilà, et je dois dire que les résultats... Il est exceptionnel.
Et bien sûr,
avec
il y en a
une belle crème de pistache à l'intérieur de Bronte. Voilà.
Pistacchio di Bronte.
Ah,
absolument.
Voilà.
Alors, c'était quelle ville ? On est plus au nord, hein, pour l'invention du panettone.
On est plus au nord, on est en Lombardie, et donc la ville, c'est Milan.
Est-ce qu'on a un gagnant ? Ou une gagnante ?
Il y a une gagnante aujourd'hui, et c'est Jocelyne Sanchez de Montsevreau. Donc, bravissima.
Bravo, elle recevra un exemplaire dédicacé. Ce ne sont, depuis des semaines qu'on fait gagner ce livre, que des filles qui gagnent. Ce sont les plus rapides pour envoyer le
mail. Ou alors, c'est qu'elle mange beaucoup de panettone.
C'est ça. On a sous les yeux un panettone absolument exceptionnel. Et pour cause, je crois savoir que c'est peut-être bien le meilleur d'Italie et du monde.
Ben, moi, je l'adore. C'est le panettone de la maison Olivieri 1882. Ils sont à Vicenza, dans les Vénéties. Et c'est vraiment un des meilleurs panettone d'Italie, pas que pour nous, mais bon, ils sont vraiment toujours au top
des concours.
Tout à fait, au top dans les classements de toute l'Italie. C'est du panettone, bien sûr, artisanal, qu'il faut bien différencier du panettone plus industriel que malheureusement on trouve un petit peu partout et qui n'est pas vraiment notre véritable gâteau exceptionnel. Mm-hmm. Et celui-ci, donc, il est vraiment parfumé, il est vraiment comme il faut, avec plein de raisins, de fruits confits.
Il est génial. D'abord, il faut dire qu'il est jaune-orangé, ouais. Et absolument pas blanchasse comme on l'a en France habituellement. Ça, ouais. C'est extraordinaire. Ouais. La vision est fabuleuse. Et à la dégustation, enfin, on le mange. Moi, j'ai mangé comme une barbe à papa, parce que ça se détache, ouais, comme ça et ça fond en bouche. Mais c'est sidérant. C'est formidable.
Laurent Delmas anticipe ma question. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un panettone? C'est peut-être bien cette idée que quand on déchire sa mie, il y a comme une espèce de nuage.
On dirait un petit peu du coton, un petit peu qui se détache. Et le panettone, c'est un gâteau très technique à faire, très long et difficile. C'est pour ça que les Italiens ne le font pas chez eux, ou alors c'est pas impossible, ou alors c'est vraiment très rare. Mais on préfère donc l'acheter, le laisser faire vraiment au savoir-faire d'un pâtissier professionnel, parce que c'est un travail déjà de 36 heures minimum quand on a déjà préparé son levain. Sinon, il faut compter au moins 72 heures. C'est donc préparé à base de farine, beaucoup de beurre, du sucre, du levain naturel, et ce sont des temps de pousse différents, et chaque temps de pousse prend au moins 8 heures. Ce sont des pâtons faits d'un temps différent, et dans lesquels on intègre ensuite les raisins secs et les fruits confits pour le traditionnel.
Depuis quelques années, on assiste à une véritable invasion, un tsunami de panettone en France, en tête de gondole des supermarchés, un peu partout dans beaucoup d'épiceries. Comment choisir un bon panettone? S'il y avait, pour ceux qui nous écoutent, un ou deux conseils, j'imagine qu'il faut commencer par regarder l'étiquette peut-être,
les ingrédients et la date de péremption.
Ouais.
Donc un panettone artisanal ne se garde pas au-delà de 4-6 semaines.
Sinon, ça, c'est mauvais signe.
C'est mauvais signe.
Ça veut dire quoi? Sinon, qu'il y a des conservateurs?
Sinon, il y a des conservateurs, des émulsionnants, des additifs chimiques qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir dans le panettone, et surtout qui donnent parfois cette odeur un petit peu chargée, presque médicamenteuse. Donc, surtout, évitez tout ça et regardez qui est, surtout dans les premiers ingrédients, de la farine de bonne qualité, du beurre et des œufs. C'est vraiment les ingrédients principaux. Et ensuite, il y a dans les raisins secs et les fruits confits, il faut qu'il y en ait environ 20%. Le panettone n'est jamais trop chargé en fruits et en raisins, parce qu'en étant un gâteau vraiment bien aérien, il ne faut pas qu'il y ait trop d'ingrédients qui alourdissent la pâte.
On évite les additifs, les colorants.
Les émulsionnants surtout, oui.
Qu'est-ce qui fait cette belle couleur jaune? C'est le beurre?
Ça, c'est le beurre, et c'est la cuisson assez longue au four d'environ une heure. Mm-hmm. Le panettone est cuit assez longtemps. Il faut qu'à cœur, il atteigne une température de 93 degrés, ce qui lui permet donc ensuite de se garder vraiment très longtemps. Et c'est grâce aussi donc au levain naturel que, tout en étant un gâteau frais, il a quand même 4, 5, 6 semaines de garde. Donc c'est quand même très intéressant.
Cette tranche de panettone était accompagnée d'une Una crema di limone.
Crema di limone.
Stéphane Tellier, vous en avez pensé quoi?
Oh là là, c'est extraordinaire. C'est un lemon curd fabuleux. Oui. Ça se marie sublimement bien. En fait, quand le panettone est de qualité, les ajouts l'enrichissent. Il ne s'efface pas. Et la consistance là, vous avez parlé de coton, mais il y a quelque chose presque de fondant alors qu'on est dans quelque chose de sec. Donc il y a une légère humidité qui est sublime.
Il a dit lemon curd, il a osé. Crema al limone.
Je dis aussi crema al limone, mais disons que c'est les mêmes ingrédients, ouais, du lemon curd, c'est-à-dire du sucre, du beurre, et des œufs et beaucoup, beaucoup de citron. Elle est un peu plus légère et vraiment très, très citronnée. Bien sûr, si on utilise des citrons du sud de l'Italie ou des très bons citrons de Corse ou de Menton, ça sera une crème exceptionnel.
Ou des citrons de Syracuse pour faire plaisir à Fabrizio Ferrara.
Ah, bien sûr.
Oui, fabuleux. On est en pleine saison en plus.
Fabuleux citron sicilien bénéficiant d'une indication géographique protégée.
Absolument, absolument.
Vous avez
Surtout le goût qui donne ce citron, il est très aromatique et un petit peu moins peut-être acide. On n'est pas dans l'acidité, mais on est plus sur le parfum. Voilà.
Vous avez la parole, Fabrizio Ferrara, vous la gardez pour nous expliquer pourquoi, selon vous, en qualité de restaurateur, et notamment à la tête, on l'a dit, d'une trattoria très réputée de Paris, Osteria Ferrara, Comment vous expliquez que la France soit à ce point amoureuse de l'Italie et de la cucina italiana? On voit depuis maintenant quelques saisons, en France, partout, le succès de la pizza et de la restauration italienne. Même la passion, on l'a vu pendant le confinement, des Français pour la pâte fraîche fabriquée à la maison. Ouais. Comment vous l'expliquez, cet amour inconditionnel des Français pour la cuisine italienne?
Alors, ça a été toujours un petit peu comme ça. Je dois dire que moi, je suis arrivé en 2000 en France et je dois dire qu'il n'y avait pas des véritables bons restaurants italiens, au moins sur la côté un peu traditionnel. Donc, on était sur quelque chose qui était surfait ou proposé un peu adapté au palais de Français. Depuis, je dois dire, depuis plus de 10 ans, désormais, on est une jeune génération de chefs italiens qui sont installés à Paris. Je parle des chefs de restaurants, mais je parle aussi des pizzaiolos, et tout ce qui est arrivé sur la pizza, c'est incroyable.
Et ça concerne d'ailleurs même toute la France, hein?
Ah, toute la France, absolument. Ça démarre toujours de Paris, et après ça, tous les grands métropoles, en fait, ils sont un petit peu sous les mêmes tendances. Je sais pas, c'est quelque chose de tellement international, dans le sens que la cuisine italienne, c'est une des cuisines, plus consommé, si vous voulez, dans le monde. C'est vrai que ça correspond à certains critères aussi d'alimentation qui sont très modernes, en réalité. Même en étant une cuisine qui est très ancienne, on a encore des critères qui sont aujourd'hui parfaitement d'actualité. Donc, on parle de beaucoup de légumes. C'est une cuisine qui est basée beaucoup sur le légume, beaucoup moins sur la viande, beaucoup de poissons aussi.
Donc, diététiquement, elle coche les bonnes cases ce qu'il faudrait manger aujourd'hui.
Il y a aussi une question de prix. Donc, faire de la cuisine italienne, c'est une cuisine qui reste familiale dans le sens aussi économique. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important, dans le sens que tout le monde, toutes les familles françaises, je pense que si on demande à leurs enfants quel est leur plat préféré, je pense que soit ça aussi, c'est la pizza, soit c'est les pâtes.
Même si en France, on a un peu tendance aussi, on a cette réputation, comme les Américains et d'autres d'ailleurs, de galvauder de temps en temps ou d'abîmer un peu la tradition italienne, de la crème dans la carbonara, des pâtes pas franchement al dente, mais là, plutôt très cuites.
Vous avez quand même bien travaillé dessus, François.
On a essayé modestement de tendre le coup à quelques clichés véhiculés effectivement en France sur la cuisine italienne. Stéphane Sollier, vous la connaissez parfaitement, cette cuisine italienne. Comment vous expliquez que les Français soit à ce point épris de cuisine italienne?
Moi, je dirais que, pour rebondir sur ce que disait Fabrizio, la cuisine italienne, elle est adaptable. Et donc, son grand succès aux États-Unis, en France, c'est qu'elle se prête à tous les produits, elle s'adapte, elle se fond, elle se métamorphose. Je dirais, pour moi, un autre critère, c'est qu'elle propose une sorte d'exotisme familier. Elle est à la fois très très proche de nos goûts en France, et en même temps elle apporte toujours quelque chose d'un petit peu différent qui surprend toujours. Et donc on arrive avec une simple recette, mais toute simple, avec des légumes qu'on n'a pas l'habitude de traiter d'une façon où on va garder un peu un légume al dente, à faire quelque chose de nouveau avec quelque chose qui aurait pu être familier aux Français.
Donc cuisine à la fois cousine, et puis il y a beaucoup de points communs entre la France et l'Italie, dans les casseroles, les échanges historiques entre ces deux pays voisins, évidemment, y a contribué. Mais
ça date depuis César, hein, quand même. C'est depuis César qu'on a des échanges avec eux.
Oui, c'est vrai.
Ben oui, c'est ça. On est colonisés d'abord. Hein. Alors ensuite, il y a eu des vagues d'immigration aussi très importantes au début du XXe siècle, qui ont fait que la cuisine italienne populaire, totalement populaire, est venue en France. C'est aussi ça, très très important.
On parle dans le livre notamment du voyage de la pizza.
Mais bien sûr.
Marseille, grande capitale de la pizza. Après Naples, évidemment, on ne fera pas d'offense aux Italiens, mais il est vrai qu'avant d'aller voyager, aux États-Unis, en Amérique du Sud, la pizza est arrivée très très tôt, effectivement, dans une ville comme Marseille, Alessandra Pierini, que vous connaissez parfaitement.
Que je connais très bien, où il y a énormément d'Italiens, et où j'ai en fait appris, il y a plus d'une vingtaine d'années aussi, des traditions italiennes régionales que je ne connaissais pas moi-même, et que j'ai apprises à Marseille à travers des immigrés italiens. Il faut dire aussi que la cuisine italienne, c'est aussi la cuisine des vacances. Les personnes adorent refaire chez eux les recettes et qui ont mangé en Italie pendant leurs vacances d'été. C'est le bord de mer, c'est le soleil, et donc c'est la cuisine de la joie.
Absolument.
Et on va moins en vacances en Bulgarie.
Et on n'a rien contre les Bulgares, on les adore évidemment. On n'a rien contre le Prosecco non plus, qui peut incarner une espèce de fête. Je vous invite à en ouvrir une bouteille.
Bien sûr.
Va déguster quelques bulles ensemble pour fêter l'Italie. Fabrizio Ferrara va carrément attaquer.
Ah oui, moi j'y vais. C'est la pasta con le les sardes.
Pasta con le sardes, voilà. Spaghetti aux sardines.
Spaghetti aux sardines.
Une spécialité familiale que vous avez préparée pour nous. On va la déguster ensemble.
Absolument.
On s'y met ?
Je m'y mets.
C'est parti. Et Stéphane Sollier, on parlait évidemment de la passion française pour l'Italie. Il y a d'ailleurs un de nos grands écrivains qui entretenait vraiment une relation complice, voire passionnelle, avec la botte.
Et il s'agit du gargantuesque Dumas, évidemment, Alexandre Dumas. Notre grand auteur des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte Cristo. En fait, il a entretenu...
Ça, on le sait, on connaît ses œuvres, etc. Ouais. On sait peut-être moins, justement, qu'il était vraiment amoureux de l'Italie, au point d'y voyager, et cette Italie a infusé, en quelque sorte, dans son œuvre.
Dans son œuvre, effectivement, c'est un grand amoureux de l'Italie, amoureux des femmes italiennes. Hein. Il a accumulé les conquêtes actrices, cantatrices, etc. Il a même... en quelque sorte adopté la révolution politique au XIXe siècle, puisqu'il a aidé son grand ami, son presque frère Garibaldi, qu'il a rejoint d'abord en Sicile et puis après à Naples. Donc vraiment, c'était un grand amoureux et il est tombé dans la marmite de la potion italienne dès ses premiers voyages. Et la cuisine italienne truste de nombreux articles de son grand dictionnaire de cuisine qui a occupé ces dernières années et qui a été publié de façon posthume. Si on regarde, je me suis amusé pendant la préparation dont on va déguster l'Italie à compter le nombre d'articles, le nombre de produits qui occupent...
Et ça lui a pris du temps, je peux vous dire.
Et ça m'a pris du temps. C'est impressionnant. Un grand amour, des célébrations savoureuses d'ailleurs... Peut-être que je vais vous lire un petit extrait d'un de ses récits de voyage qui s'appelle le Speronare. Et le Speronare, c'est un petit bateau qui lui a permis de voyager de Naples jusqu'à la Sicile, de faire tout le tour de la Sicile.
Alors là, on quitte le grand dictionnaire de cuisine.
On quitte le grand dictionnaire. C'est un récit de voyage.
C'est ça.
Et qui a précédé juste le grand dictionnaire. Il découvre un poisson et un fruit merveilleux.
Allons-y.
Mon pauvre capitaine s'était mis en frais et Giovanni avait fait des merveilles. Il y avait surtout un certain plat de poisson qui me parut un chef-d'œuvre. Je demandai le nom de cet honorable cétacé que je ne connaissais point encore et qui cependant me paraissait si digne d'être connu. J'appris que j'avais affaire au pêche-espade. Je m'étais donc contenté jusque-là d'estimer l'espadon sous le rapport de son aptitude à l'escrime. Et voilà tout. Mais je vis que M. de Buffon lui avait fait tort et qu'il possédait comme poisson des qualités inconnues non moins estimables que celles dont son historien s'était fait l'apologiste et qu'il méritait d'avoir dans la cuisine bourgeoise un article nécrologique aussi important que l'article biographique qu'il possédait déjà dans l'histoire naturelle. Le dessert n'était pas moins remarquable que le déjeuner. Il se composait de grenades et d'oranges magnifiques auxquelles était joint un fruit qui ne m'était pas moins inconnu que le poisson sur lequel je venais de recueillir de si précieux renseignements. Ce fruit était la figue d'Inde, cette manne éternelle que la Sicile offre si largement à la sensualité du riche et à la misère du pauvre. Il faut une certaine étude pour arriver à éventrer le fruit sans accident. Cette opération faite, il sort de la blessure un globe à la chair orangeâtre, doux, frais et fondant, qu'on commence d'abord par déguster avec une certaine froideur, mais dont, au bout de 8 jours, on finit par se faire une nécessité.
Fica d'India, la figue d'Inde, hein, c'est comme ça qu'on dit bien. Hein.
Fico d'India.
Fico, voilà, Fico,
c'est un garçon,
pas Fica.
En Italie.
C'est un garçon, absolument. Ça vous dit quelque chose, la figue de Barbarie?
Ah oui, ça c'est...
En Sicile, c'est une manne incroyable.
C'est une manne incroyable, c'est vraiment un fruit typique de sicilien. Et... on a une utilisation très réduite, je dois dire, hein, dans la restauration. On fait des coulis, on fait des choses comme ça, mais effectivement, c'est un produit pas évident à proposer.
Absolument, voilà. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Ouais, il est à la manœuvre avec son casque et son micro,
voilà,
en train de nous préparer les spaghettis aux sardines, dont vous allez nous parler dans un instant, Fabrizio.
Ouais.
On passe à une question, et puis on continuera évidemment à parler de la culture, mais on va passer à une question pour gagner un second livre dont va déguster l'Italie dédicacé. On attend votre bonne réponse uniquement sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com. Je le précise avec votre nom et votre adresse. On reçoit énormément des centaines de réponses où il n'y a pas votre adresse postale. On est obligé malheureusement de les mettre à la poubelle, même si la réponse est juste, parce qu'on ne peut pas vous adresser le livre par voie postale. Une question, Stéphane Sollier.
Alors, quel produit de la mer, supposé aphrodisiaque, entre dans les menus coquins et les jeux érotiques du grand séducteur vénitien Casanova?
On se tait autour du plateau dont on va déguster. Est-ce que quelqu'un a une idée? Mais vous dites rien. Bon, tout le monde a l'air d'être à peu près au courant de la vie érotique et sexuelle de Casanova et de ses penchants aussi gastronomiques. On va vous donner la réponse juste après ça.
Ti rendi conto anche tu, da anni non vivi più, perché tu vivi per me, sì, però io non vivo più. E la nostra fine, e la nostra fine, e la nostra fine, questa è la nostra fine. Cos'è successo lo sai? Sceglie per noi, possiamo parlarne se vuoi, sì, ma la notte è giunta per noi, è la nostra fine, è la nostra fine, è la nostra fine, questa è la nostra.
Andrea Laszlo de Simone avec La Nostra Fine, ça a beaucoup de succès sur la playlist de France Inter. On va déguster Fête les saveurs italiennes à quelques jours de Noël avec énormément de spécialités très festives. On a d'ailleurs ouvert du Prosecco. On ne fera pas l'offense à nos amis champenois de dire que le Prosecco est le champagne italien, quoique ça y ressemble un petit peu.
Ça lui ressemble un petit peu déjà parce que, disons, c'est le vin blanc pétillant, effervescent qui est maintenant connu partout. Mm-hmm. C'est un vin blanc qui est issu du cépage Gléra et des produits dans 5 provinces de la Vénétie, dans 4 provinces du Frioul. Celui qui est le plus connu, c'est celui qui est produit autour de la ville de Trévise. Et là, dans nos verres, nous avons du Guido Indigeno.
Qu'est-ce que c'est bon.
Et c'est un Prosecco qu'on dit maintenant Prosecco de vignerons, parce qu'il y a aussi des vignerons d'auteurs, absolument. Il y a beaucoup de vignerons qui gardent toujours la tradition du pétillant naturel ou de celle qu'on appelle aussi la méthode ancestrale, qui est c'est-à-dire celle d'une double fermentation en bouteille et qui permet donc de garder aussi des sédiments dans la bouteille quand il n'est pas dégorgé, ce qui donne cette aspect de la robe un tout petit peu trouble.
C'est ce qu'on appelle en France un pétnat.
Un
pétillant naturel.
Pétillant naturel.
Pour différencier ces Prosecco d'auteur de certains Prosecco qui sont carrément issus de usine à bulles. Hein,
usine à bulles, plus industrielle, fermentation en cuve close, très... pas très digeste,
voilà,
disons.
Les Prosecco qui donnent mal à la tête, ça existe.
On va déguster l'émission gastronomique de France entière.
France entière, c'est pas facile à dire. Remarquez, c'est France Inter. Dans la France entière, vive France Inter. Bah, figurez-vous, Stéphane Solier, qu'on a énormément de réponses à la question que vous avez posée sur le séducteur vénitien Casanova. Vous nous rappelez la question que vous avez posée.
Oui, quel produit de la mer supposé aphrodisiaque entre dans les menus coquins et les jeux érotiques du grand séducteur vénitien Casanova, Jack, comment?
Alors, qui avait une idée? Quelle était la réponse? D'accord, silence autour
Personne.
Du plateau dont on va déguster.
Donc évidemment, il s'agissait des huîtres.
Laurent Delmas s'était concentré sur son verre de Prosecco.
Oui, exactement. Ça m'a troublé à tout point de vue.
Il était même noyé dedans.
Eh bien, écoutez, cette question a inspiré cette fois les hommes, hein, puisque vous avez dit que c'était plutôt les femmes qui répondaient, qui gagnaient. Donc là, il s'agit de Mathieu Lachiez de Tassin, la demi-lune dans le Rhône.
Ah, c'est pas très loin de là où je suis né. Enfin, tout le monde s'en fout.
Ouais. Mais voilà, donc le gagnant du second ouvrage de l'émission.
Absolument.
Tassin, la demi-lune, la patrie d'Anne Sylvestre.
Ouvrage dédicacé, et c'est, je sais, absolument la patrie d'Anne Sylvestre. Là, pour le coup, c'est une info... très intéressant. Oui, absolument. Vous avez justement la parole, vous allez la garder, Laurent, à travers un petit moment de cinéma, va-t-on dire, puisque vous avez contribué très ardemment à notre encyclopédie. Vous avez signé plusieurs pages dont on va déguster l'Italie, sur les rapports étroits entre le cinéma et la cuisine. Dans les films de mafia italo-américains, le portrait d'un cinéaste très gourmand qui était Fellini, etc. Et j'en passe, hein.
Oui, oui, il y a mon voisin de gauche aussi, Stéphane Tellier, qui a écrit les choses sur Sophia Loren, notamment, et Visconti.
Oui,
voilà, donc on a bien travaillé sur le cinéma. Je pense qu'il y a peu de... À part le Japon, il y a peu de pays au monde où on mange autant sur grand écran. Donc il y a des scènes, il y en a profusion. Alors, on en a choisi quelques-unes, les cinq les plus gourmandes dont on se souvient, en tous les cas, à Cinecittà, et dont une dans le beau film d'Ettore Scola, qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés, qu'on connaît bien sûr tous, 1974, trois garçons.
Vous serez capable de nous citer le titre en italien ?
Ah, pas moi.
Nous nous sommes tant aimés.
Non, je ne massacre pas cette langue.
C'eravamo tanto amati.
C'eravamo tanto amati.
Voilà. C'est bien plus beau en italien, je le sais, mais moi je massacre pas, hein. Je respecte. Et donc il y a trois copains et évidemment aussi une femme qu'ils aiment tous, c'est Stefania Sandrelli, Manfredi, Gassman et Sata Flores. Donc et il y a notamment une trattoria, c'est pour ça que j'ai choisi ce film, une trattoria récurrente, c'est-à-dire c'est un lieu où ils se retrouvent très très régulièrement et je pense que c'est une façon de dire la convivialité qui est liée à cet endroit, à ce restaurant italien en général populaire qu'on voit aussi à l'extérieur chez Fellini, par exemple, avec des grandes tablées, il y a des scènes extraordinaires de trattoria populaire. Et donc, ils se rassemblent dans, tenez-vous bien, une trattoria qui s'appelle le roi de la demi-portion. Le roi de la demi-portion, c'est-à-dire, c'est inscrit, c'est on y mange peu et pour pas cher. Voilà, c'est ce qui leur plaît à ces trois-là. On va écouter un extrait, effectivement, où ils sont ensemble et le serveur leur propose un plat.
Luciana, scusa, questo è Nicola, il professore, la signorina Zanotti.
Ah, piacere. Come sta? A Roma?
Sì, mi scusi, mi sono trasferito per lavoro.
Ecco la due mezza
picchia po', che schifezza.
Manzo con pomodoro e cipolla.
Pomodoro e cipolla li vedo, manzo un po' meno.
Ma ormai ci stanno 5.830 trattorie a Roma, c'hai ampia scelta. A piccoli, che te mangi?
Mezzo per coletti e...
Va bene, è tanto bene, ci va, io ce la faccio.
Picchiapo, qu'est-ce que je... Pardon Alessandra, je prononce comme ça.
Non, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est que ça? On entend ça en français. Donc
qu'est-ce que c'est que ça,
hein, donc un petit peu de français dans le film de Scola. Alors moi je me suis renseigné bien sûr. Il semblerait que c'est un sens d'abord. C'est un verbe qui veut dire tabasser. Et donc c'est une viande bouillie. C'est une viande qu'on n'hésite pas à tabasser. Effectivement.
Pour l'attendrir.
Oui, c'est une viande de récup. C'est-à-dire c'est une viande de bouillon qu'on fait cuire avec des tomates, des oignons et de la pomme de terre. Mm-hmm. Et donc le serveur à la porte, à l'un des trois, et quand il commence à la manger, il dit, ah bah oui, il y a beaucoup de légumes, mais il n'y a pas de viande. Donc c'est la demi-portion, quoi. C'est le piacabro à la demi-portion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'essentiel, quoi. Voilà. Donc c'est ça. C'est
la trattoria porte bien son nom.
Oui, absolument. C'est une cuisine de pauvres en même temps. Et à quoi le serveur lui répond, bon, écoute, il y a 5800 trattorias à Rome, va voir ailleurs. Voilà. Donc c'est une scène extraordinaire parce que ça dit beaucoup de choses, effectivement, sur ce grand moment de convivialité populaire que peut être un dîner entre copains dans une trattoria.
Très bien.
Et puis, alors, là, on est dans la botte, au cœur de la botte, mais il faut dire aussi que la cuisine italienne, c'est ailleurs. Bien évidemment, elle s'est, on l'a dit, en France, beaucoup exportée. Elle s'est aussi exportée avec une agence de tourisme un peu particulière qui s'appelle La Mafia, qui a exporté aux États-Unis, notamment.
Une agence de promotion de la cuisine italienne.
Absolument. Tant pis pour eux. Et c'est comme ça. Et donc, alors, des films de mafia, il y en a beaucoup. On en a choisi trois, dont Le Parrain, 1972, évidemment, Francis Ford Coppola. Et dans le Parrain, il y a une scène où un mafieux, un petit truand qui s'appelle Peter
Clemenza, ça ne s'invente pas, donne à Mike Corleone, le fils de Brando, le fils du grand parrain, donc joué par Al Pacino, il lui donne sa recette de pâtes aux boulettes.
Ah, génial. Voilà.
Meatballs. Voilà, exactement. On peut peut-être écouter d'abord et puis on y revient ensuite.
Tiens, viens donc que je t'apprenne un truc. Si jamais un jour il faudra peut-être que tu fasses la tambouille. Et regarde, d'abord tu verses une petite goutte d'huile. Tu fais frire une petite pointe d'ail, tu rajoutes deux ou trois belles tomates, après tu verses le coulis. Tu fais revenir, mais sans que ça attache, hein. T'attends que ça bouille, tu rajoutes les saucisses et puis les boulettes de viande. Voilà. Ensuite un peu de vin. Un peu de sucre en poudre. Et voilà le travail.
Voilà, donc c'est la recette, vous pouviez la noter, parce qu'en fait, Coppola a dit un jour, bon, je l'ai mise comme ça dans le film, assez développée, parce que je me suis dit, si le film est un ratage, si les gens ne l'aiment pas, au moins ils sortiront avec une chose qu'ils auront apprise, la bonne recette des pâtes aux boulettes. Voilà, bon,
c'est Coppola. Hein. Et comme on le sait, évidemment, le film a été un ratage commercial complet.
Commercial total, bon voilà. Il le doit bien sûr à la maman, hein, à sa mère, hein, Coppola, et cette recette est issue de la tradition familiale, bien évidemment.
Et extraordinaire, un autre nom, on est bon là ?
Oh oui, je crois, on ne pourra pas faire le tour du cinéma italien. Moi, je vous le donne pas comme ça. Évidemment, Stéphane pourrait nous parler de Sophia Loren, parce qu'il y a comme ça ces acteurs et ces actrices italiens, c'est très particulier, qui font des livres de recettes. On n'a jamais vu Gabin ou Bardot, et peut-être vaut mieux pas d'ailleurs, donner un livre de recettes. Mais ça, oui, c'est une tradition italienne aussi. C'est-à-dire vraiment les acteurs qui disent voilà comment je fais mes pâtes, voilà comment je fais mon poisson, etc. C'est tout à fait italien, et il y en a des reflets bien entendu nombreux dans le domaine de l'édition.
Très belle page de Stéphane Sellier d'ailleurs sur la passion gastronomique de Sophia Loren.
Oui, on se demande pourquoi il a choisi Sophia Loren. Voilà, alors, mais ça c'est l'invasion gastronomique, bien sûr.
Non, on va déguster l'Italie. Laurent Delmas, on finit par un petit clin d'œil cinéma, puisque le dernier livre a gagné. On va déguster l'Italie dédicacé par toute l'équipe. Eh bien, il le sera par celui qui répondra le plus rapidement possible sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com à une question justement liée à un film et à la cuisine. Question Laurent Delmas.
Ouais, vous m'avez dit que c'était une question au poil, François Régis. Dans le film Les Affranchis de Martin Scorsese, quel objet tranchant sert à émincer l'ail pour préparer le plat de pâtes du clan Lucchese en prison ?
Absolument, on attend vos réponses sur notre mail. Question pour les grands cinéphiles, je pense que ça va, il y a moyen de trouver.
C'est un peu fastoche.
Ouais, on la donne à la fin de cette émission, la réponse avec le nom du gagnant. Et pendant ce temps, Fabrizio Ferrara apporte sa dernière touche à son plat de pâtes. Racontez-nous un peu, Fabrizio, le principe de cette sauce. Alors, c'est vraiment une recette de famille. Hein.
Alors, c'est vraiment une recette de famille, surtout que c'est vraiment une recette qu'on peut faire comme je suis en train de la faire maintenant, donc avec une sauce qui est prête, qui est faite à la minute.
Sinon, vous n'avez pas triché, vous l'avez vraiment fait en quelques minutes.
C'est le temps de cuisson des pâtes. Là, c'est des spaghettoni artisanaux, donc ils mettent une dizaine de minutes pour cuire. Mm-hmm. Et dans les 10 minutes, si on a tous les ingrédients qui sont prêts, on peut faire la sauce sans problème.
Comment
on
vous démarre, l'avez... Oui, allez-y.
On démarre avec une poêle chaude, mais pas trop. On met de l'huile d'olive. Alors moi, personnellement, je mets un peu d'oignon et un peu d'ail et un peu de piment.
Qu'est-ce que ça sent bon.
Ok. Et sous ce fond d'huile parfumée, je vais faire revenir un petit peu les sardines coupées en filets. Donc les sardines, il faut les lever en filet, à lever l'arête centrale.
Où on demande à son poissonnier.
Oh, voilà. Ça s'appelle des filets de sardines.
C'est
voilà.
Ça, des sardines bien fraîches. On va prendre des sardines bretonnes. Allez.
Exactement. Et on fait revenir tout ça. On rajoute un peu de fenouil sauvage. Donc là, c'est un peu le secret de la recette. Vous allez voir une différence énorme entre le avant et le après.
C'est ça. Finocchietto.
Finocchietto.
Ou finocchio selvatico.
Finocchio selvatico en italien. Donc ça fait partie de la famille de fenouil qui est... Par contre, c'est une plante sauvage. Voilà, on ne le cultive pas vraiment. C'est des plantes qu'on trouve vraiment au bord de route, en Sicile, dans tous les sud de l'Italie, toute la partie méditerranéenne.
Et pour ceux qui ne trouvent pas, si on met des graines de fenouil, vous ne nous en voulez pas ?
Je ne suis pas trop d'accord, parce que le grain de fenouil, vraiment, c'est différent.
Okay.
C'est vraiment différent. Ce que je vous propose au cas où, si vraiment on peut prendre des fans de fenouil.
D'accord.
Voilà. Et peut-être rajouter un peu d'aneth, mais on n'est pas vraiment là sur...
En tout cas,
donc,
il faut cette note anisée.
Ce qu'on peut faire, c'est de manière plus simple, sûrement Alessandra Pierini il aura ça dans sa boutique, c'est une conserve de fenouil sauvage. Donc c'est des fenouil sauvage tout simplement mis dans l'eau de cuisson. Donc on le blanchit, on peut le faire nous-mêmes d'ailleurs, hein, si vous voulez, on peut faire une conserve pour l'hiver. Donc ce qu'on fait en Sicile, c'est qu'on le met en conserve. Et on le sort quand on en a besoin, comme c'est la caponata et d'autres produits.
Donc ce fenouil sauvage va rejoindre la sardine dans la poêle.
Absolument.
Avec l'oignon.
Avec l'oignon et l'ail, le piment. Et là, on met deux ingrédients qui sont très importants, c'est le pignon de pain.
Et pinoli.
Et le raisin sec. Donc voilà, c'est les ingrédients qu'on... voilà, après il y en a qui rajoutent, voilà, dans la recette traditionnelle, si vous voulez, on a du safran aussi qu'on peut mettre. Moi, sincèrement, avec le fenouil, les sardines et tout le reste, le safran, c'est un plus que je ne vois pas intérêt. Voilà, donc je suis un peu contre le safran, mais bon, dans la recette traditionnelle, souvent, on le retrouve.
Et là, vous faites allez-y.
Et là, on a donc égoutté les pâtes, les spaghettis, donc on les égoutte directement avec une pince, sans besoin de les goûter dans un passoir. Et on garde surtout l'eau de cuisson, parce que là, il a besoin, la pâte, de se mélanger bien avec la sauce.
Vous avez fait un geste important. Vous aviez une cuillère à soupe, vous avez prélevé
quelques cuillerées d'eau de pâte.
D'une cuisson qui est bien chargée en amidon.
Absolument. Ça, c'est le secret un peu de nous, les chefs italiens.
Pour créer ce qu'on appelle la mantecatura.
La mantecatura, voilà.
On égoutte beaucoup trop les pâtes en France.
Mais voilà, il faut garder de l'eau de cuisson. Ouais. Ça va participer à la liaison finale de votre pâte.
Il ne faut pas hésiter à sortir les pâtes de l'eau très al dente et terminer la cuisson avec la sauce. Ça, c'est très important. Avec l'eau des pâtes riche en amidon, ça va créer ce lien et cette petite crème brillante qui va être sous les pâtes. Et après, il faut les manger la minute après.
Et quitte si c'est trop al dente ou si c'est trop sec, quitte à rajouter régulièrement.
Absolument.
Il faut jouer l'équilibre, mouiller sa pâte, c'est ça ?
Il y a par exemple, à Naples, ils font souvent des pâtes aux fruits des mers, par exemple des palourdes ou des moules, etc. Ils laissent cuire carrément les pâtes directement. Du début, ça s'appelle un peu la pasta risottata, mais qui les pâtes sont vraiment cuites dans le jus pour vraiment qu'ils s'imbibent complètement du jus de coquillage.
Est-ce que vous évoquez, alors là, je crois qu'il y a deux écoles. D'abord, on goûte quand, Fabrizio?
Bah là, tout de suite, là,
oui, parce que ça commence à durer. Ouais,
non, ça sent bon.
Il y a un assaisonnement final que mettent les mamas siciliennes, mais également
là, c'est le secret un peu de familial, on va dire, dans le sens que, bon, c'est pas familial de ma famille, mais qu'on fait souvent dans les familles, c'est de rajouter de la chapelure ou ce qu'on appelle la mollica. Donc c'est du pain croustillant qu'on a fait poêler avec un peu d'huile d'olive et de l'ail. Moi je fais ça, je mets même un filet d'anchois pour lui donner vraiment du goût et se rapprocher surtout des sardines, etc. Donc on arrive à mettre ce pain et je vous conseille de le faire parce que goûter sans et goûter avec, c'est que ça change complètement. C'est une alchimie incroyable.
C'est ce qu'on appelle le pane grattugiato, ou c'est la mollica?
Le pane grattugiato, le pain...
Et tostato.
Il peut être toasté ou ça peut être du pain rassis qu'on a à la maison et qu'on réutilise à la place du fromage, en fait.
Parce qu'après, on se dit que c'est contre-intuitif d'avoir du pain qui comporte déjà de la farine de blé sur des pâtes qui sont elles-mêmes faites avec de la farine de blé, mais il y a un contraste de texture intéressant.
Il y a un contraste de texture, c'est très intéressant, et c'est dans la cucina povera du sud de l'Italie, c'est très, très, très répandu.
Ah bien, et ben écoutez, on a hâte de goûter.
Juste pour terminer, je rajoute juste quelques gouttes de citron pour rééquilibrer un petit peu la sauce. Moi, c'est un peu aussi mon secret au restaurant. Je rajoute surtout sur les pâtes au poisson toujours un peu de jus de citron à la fin. Vraiment, juste avant de mettre.
Et bien, juste le temps que vous serviez, notre ami Laurent Delmas peut nous livrer la réponse et le nom du gagnant. Vous rappelez la question, Laurent ?
Dans le film Les Affranchis de Martin Scorsese, quel objet tranchant sert à émincer l'ail pour préparer le plat de pâtes du clan Lucchese en prison? Moi j'ai la réponse en son qu'on va vous faire écouter tout de suite. Je comprends pas pourquoi Stéphane nous a pas fait écouter Casanova, mais moi j'ai la réponse en son.
Allez, emmenez-moi en tôle.
En prison, le dîner c'était toujours tout un truc. On avait des pâtes en entrée et ensuite on avait viande ou poisson. Pauli s'occupait du travail de préparation. Il faisait un an pour outrage aux forces de l'ordre et il avait vraiment le coup de main pour l'ail. Il servait d'un rasoir et il coupait l'ail tellement fin que ça fondait dans la poêle, avec juste un filet d'huile. C'est une bonne recette.
Alors, ouais.
Eh ben oui, bon, donc nos auditeurs masculins se servent et des huîtres, et évidemment des lames de rasoir. Donc c'est Xavier Chédéquer de Mulhouse.
Et les deux réponses acceptées étaient rasoir.
Ou lame de rasoir.
Ou lame de rasoir.
Bien entendu.
Ça sent que c'est bien une toute petite lame de rasoir.
Ouais, ne le faites pas forcément chez vous, parce que c'est délicat. Hein.
Mais la scène est vraiment très intéressante. Un tout petit objet qui permettait vraiment d'émincer.
Rasoio, en italien.
Rasoio, super finement. Cette gousse d'ail, formidable. Allez, encore un peu de culture culinaire autour de l'Italie. avec Stéphane Sollier, vous nous parlez de...
Alors, je vais vous parler, j'ai trop de choses. Rossini, Verdi, j'aurais adoré vous en parler, on en parlera
une autre fois. Oui, parce que Rossini et Verdi, deux compositeurs
deux
italiens.
Deux compositeurs qui se sont fait la guerre à coups de tourne-dos, de macaroni, etc. Donc, et puis, ils ont inspiré de grands chefs, hein, Carême, Escoffier, se sont inspirés de ces noms-là pour créer des recettes.
Tourne-dos Rossini.
Et le tourne-dos Rossini, évidemment. Mais je vais vous parler plutôt, moi, j'ai un coup de cœur pour une recette, le cacciucco. Cacciucco livournais. Alors là, je vous raconte une petite histoire de Clochemerle en Italie. C'est un ragoût de poisson cousin de la bouillabaisse. Et tout est mystérieux dans ce plat. Le nom, l'origine, l'étymologie.
Alors, on sait à peu près que ça vient de Toscane, quand
ça
même.
Ça vient de Toscane. Des cités de Toscane se battent pour revendiquer la paternité. On va dire, allez, j'ai un petit coup de cœur pour Livourne. Livourne est la patrie du cacciucco, mais Viareggio, qui est la rivale un petit peu plus bling-bling, a permis de faire connaître le cacciucco. Mais c'est surtout ce qui me plaît dans cette histoire, c'est une rivalité ancestrale qui rebondit encore dans les marmites. Alors vous avez la rivalité historique entre Pise et Livourne, eh ben elle se retrouve aussi à propos du cacciucco, puisque les Livournais considèrent qu'on ne peut pas mettre de vin rouge pisant des collines pisanes dans le cacciucco, sous peine de détruire le goût du cacciucco. La version sans arrête, ils disent que c'est pour les enfants et les pisans. Et puis surtout, alors, les pisans leur répondent à coups de musique. Et on a un groupe de jazz, Gatti Mezzi, qui a écrit une chanson sur le cacciucco et dans lequel ils expliquent que la vraie chanson, la vraie soupe du pays pisan, c'est un cacciucco, mais c'est un cacciucco de légumes. C'est simplement le minestrone.
Clochemerle à l'italienne dans les casseroles. Écoutez ça un peu. Guéguerre autour de cette soupe de poisson d'origine livournaise, mais dont on s'arroge la paternité un peu partout en Toscane et notamment à Pise. Très très intéressant, un grand merci Stéphane Sollier. Et puis un tout petit mot, malheureusement on arrive au terme de cette émission, d'une recette de Noël napolitaine que Alessandra Pierini nous a préparée.
C'est la scarola imbottunata. On connaît l'amour des Italiens pour toutes les salades amères. Ce sont des salades de saison. Et ça, c'est un plat typique aussi, surtout mangé la veille de Noël dans la région napolitaine. Et qui consiste donc à avoir une scarole tout entière et de la farcir avec des pignons, des raisins secs, des olives et aussi des filets anchois revenus dans une casserole avec des câpres.
On va goûter ça ensemble.
En délice, bien sûr.
Recette dont on va déguster l'Italie et également Stéphane des frégoula à la sarde. Oui,
il peut pas répondre, il a la bouche pleine de
parler malheureusement, mais il nous a préparé ça. On va se régaler juste après l'émission. On va déguster l'Italie du panettone au spaghetti al ragout de Scorsese, tutta la cucina italiana aux éditions Marabout et France Inter. J'en profite pour remercier Alessandra Pierini, Stéphane Sollier, Ilaria Brunetti, Anna Maréchal, Marielle Gaudry, Charles Patin-Okoun qui m'ont aidé à diriger cet ouvrage collectif avec plus de 160 contributeurs. Merci également à toutes les équipes des éditions Marabout et des éditions de Radio France, avec un merci tout particulier à Anne-Julie Bémont, la patronne des éditions de Radio France, qui accompagne dans la maison, avec énergie et bienveillance, tous les projets éditoriaux de l'émission depuis de nombreuses années. La semaine prochaine, on va déguster Dresse le couvert chez le chef Nordine Labia et sa femme Virginie dans son bistrot à mi-chemin Paris 14e pour une émission de fête. Laurent Delmas, ici présent, sera avec nous.
J'espère.
Avec Jérôme Gagnès, Déborah Dupont également seront de la partie. À dimanche prochain, les amis.
À dimanche.
Buon appetito.
A presto.
Ciao à tutti.
On va déguster avec le golfe du Morbihan et ses bonnes huîtres bretonnes. Partons à la rencontre de savoir-faire exceptionnels. Voyageons ensemble sur golfedumorbihan.bzh.